À la bonne heure, jusqu'à 20h. Bonsoir, bienvenue à La Bonne Heure, je m'appelle Oliver, on va être ensemble pour les deux prochaines heures. On a commencé avec une chanson que j'ai en tête depuis en fin de semaine, quand j'ai écouté leur spectacle à Coachella. No Doubt, tiré de leur album paru en 2000, Return of Saturn. 5 ans après Tragic Kingdom, 95, gros succès, 3e album. Ça a failli être la fin pour No Doubt, c'était pas Tragic Kingdom. Et puis là, ils attendaient à sortir le prochain album. C'était pas encore après Return of Saturn. Ça a l'air que toutes les chansons étaient écrites, sauf deux. Ils sont revenus en studio pour écrire, enregistrer Ex-Girlfriend puis Simple Kind of Life. Life, chanson qu'on entend présentement, Simple Kind of Life. Ouais, là, je l'ai mieux. Deux chansons qui ont été des hits sur cet album-là. Le reste, honnêtement, il y a bien des trucs qui sont oubliables. Là. Ça a l'air que Olivia Rodrigo a trippé sur Bathwater parce qu'elle est venue la chanter avec No Doubt et Gwen Stacy en fin de semaine à Coachella. Semaine 2, fin de semaine prochaine. Fait que c'est ça. Puis en 2001, je savais pas que c'était aussi proche. Return of Saturn 2000, puis 2001 sont avec Rocksteady. Puis là... Hey Baby, Ella Good, qui a été... je ne savais pas. Puis là, j'ai appris qu'il y a quelqu'un que je connaissais pas qui, dans le fond, a écrit plusieurs chansons que j'ai aimées. Le producteur Nelly, mais N-E-L-L-E-E, Hopper, donc H-O-O-P-E-R, qui a coproduit avec No Doubt Ella Good. Il vient d'Angleterre. Il a également coproduit Nothing Compares to You, la version de Sinead O'Connor. Il a produit plusieurs chansons du premier album Debut, ou Début, de Björk, dont Hyperbolade, de Isobel, Army of Me. Par la suite, il a sur le deuxième album. En tout cas, il a produit plusieurs chansons, surtout principalement le premier. Des chansons également pour la carrière solo de Gwen Stefani. Puis aussi GoldenEye, la pièce, la chanson-titre du film avec Tina Turner. Et aussi ma chanson préférée de U2 du film Batman Forever, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, qui a coproduit avec Bono et The Edge. Fait que je connaissais pas ce monsieur-là. Puis je me suis rendu compte qu'il a bercé mon adolescence avec plusieurs chansons. Fait que c'est ça, j'avais le goût de vous faire jouer du No Doubt aujourd'hui. Puis parlant de Coachella et de No Doubt, là, on a souligné le 10e anniversaire du Cocoton de Laval, qui n'était pas organisé par Laval, qui était organisé par une dame qui voulait faire un Cocoton. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Cocoton, moi je ne savais pas. J'étais à Coachella dans ce temps-là, il y a 10 ans, 2014, mon ami Rachel Delfante, que je salue, qui m'écrit, qui me dit « T'as-tu vu ce qui se passe au Cocoton? » Je suis comme « je suis à l'autre bout de l'Amérique, là, je suis à la côte ouest, je vois pas ça passer, je lis l'article, je fais un statut sur Facebook là-dessus, ça marche. » Pas du tout. Je suis comme, bon, ça doit pas être une grosse affaire. Et après ça, ça a pris des proportions vraiment importantes. Quand il y a eu un fameux reportage, à l'époque, le journaliste n'était pas si connu que ça. Même moi, je savais pas que c'est lui qui avait fait le topo. Mais par la suite, il est devenu, en fait, présentateur du TVA 22h, monsieur Pierre-Olivier Zappa. Donc, pour les 10 ans du Cocoton, qui ont été soulignés, c'est pendant Pâques, mais comme fin mars, c'est pas la date officielle. Puis c'est pas un dimanche, hein. Ça s'est passé un samedi, 19 avril 2014, où, justement, ça a pris des proportions vraiment incommensurables. Parce que les gens avaient réservé leur place, puis le Cocoton, en gros, c'était une chasse de coco de Pâques. Mais il y a trop de monde qui se sont déplacés au centre de la nature. Là, les organisateurs étaient débordés par justement autant de gens. Les gens ont passé par-dessus les barricades, je devrais dire, ou la clôture métallique. Et puis là, c'était au plus fort la poche pour ramasser des cocos de Pâques. Puis ça a l'air qu'il y a des parents qui ont volé des cocos de Pâques dans les les paniers de certains enfants pour les donner à leurs enfants. Et c'était l'enfant. Moi, la blague avec ça, c'est que quelques jours plus tard, quand je suis revenu au Québec, je suis allé manger à Cabane à sucre avec mon père pour son anniversaire, pour nous croiser Gilles Vaillancourt. C'est la première fois que je voyais Gilles Vaillancourt. Là, vous vous rappellerez qu'à l'époque, il était plus maire, puis ça allait pas bien. Puis là, j'ai pris mon courage à deux mains pour aller le voir. Puis j'ai pris une photo avec lui aussi. Puis j'ai dit, en tout cas, M. Vaillancourt, il y a du monde qui pense que si vous étiez encore maire de Laval, le cocoton, ça serait pas passé de même. Puis il est passé d'un an débité à... Parce qu'il savait pas, il était comme deux jeunes. J'étais avec mon ancien beau-frère pour aller le voir, puis c'est comme, qu'est-ce que vous me voulez? T'sais, il y avait une phase de qu'est-ce que vous me voulez? Puis là, quand j'y ai dit ça, il s'est redressé le chest, puis ah, oh, vous savez, puis ma sœur qui a été vraiment vite, a dit une photo! Il dit ça va pas sur les médias sociaux. Je suis comme, ben non, puis c'est devenu ma photo de couverture pendant quelques années sur Facebook. Ça, c'est mon anecdote du cocoton. Puis, je pense, deux ans plus tard, le 9-1 nous avait appelé au travail, au 3-1 de la ville de Laval, nous demandant s'il allait avoir un cocoton cette année parce qu'il voulait se préparer en conséquence. On a dit non, c'est ça, ça allait plus vraiment se passer. Mais pour venir à Pierre-Olivier Zappa, il a raconté son expérience, je devrais dire, à Cube le 29 mars dernier. Il raconte comment ça s'est passé. En gros, c'est ça. C'est un... vous allez l'entendre, là. Mais ça a commencé avec plus qu'un fait divers. Et le flair de Pierre-Olivier Zappa a donné un reportage vraiment intéressant. Mais surtout, le caméraman qui s'était déplacé le samedi, parce qu'il n'y avait pas de topo le samedi. Le topo s'est fait le dimanche. Le caméraman qui a été chercher des images. Dit, bon, on va avoir des images. À l'époque, c'était censé pas être cocasse, ça c'était pas censé être un drame national, mais c'était censé être quelque chose de cute. Justement, ça a viré assez YOLO. À l'époque, on disait YOLO. Fait que ça a viré assez YOLO. On écoute Pierre-Olivier Zappa nous raconter comment son topo à l'époque à TVA s'est concoté pour ce qui est du cocoton. Concoté, ouais. Cocoton 2014. On écoute.
Ce reportage au cocoton, Richard, je le vois aujourd'hui comme la fable, une fable sur l'époque moderne dans laquelle on vit. Et pour te raconter, peut-être 10 ans après, pour une première fois, les coulisses du cocoton, je t'explique le contexte dans lequel s'est inscrit ce reportage. Je lève le voile sur ce chapitre du Québec moderne. Je suis au travail dimanche, on est la fin de semaine de Pâques, et tu sais, dans le jargon, on appelle ça un « slow news day », une journée où il y a peu de nouvelles à se mettre sous la dent. Et je croise un de mes collègues caméramans, Jérôme, qui vient me voir et qui me dit « Écoute, Pierre-Olivier, hier, mes patrons m'ont mandaté pour aller tourner la bonne nouvelle TVA, et c'était le cocoton de Laval ». Et il m'exprime son malaise. Il dit, lorsque je suis arrivé, j'avais peine à capter des scènes de bonnes nouvelles parce que les gens étaient agressifs. Certains se chamaillaient. Les enfants détruisaient les arbustes. C'était une chasse au coco qui a viré au cauchemar. Alors, il m'a invité à visionner les images qu'il avait captées la veille. Et là, je l'ai regardé. J'ai dit, je pense qu'il y a là reportage d'intérêt public, portrait de la société moderne dans laquelle on vit. Et je me suis mis à faire quelques recherches rapidement ce dimanche matin-là, contacter des parents qui étaient sur place, l'organisation du fameux cocoton de Laval. Et j'ai pondu ce reportage qui avait fait à l'époque énormément jaser et qui fait encore jaser à ce jour, Richard.
Pondu. Donc, merci, Jérôme. J'avais oublié que c'était la bonne nouvelle TVA. Voyez-vous, j'ai entendu ça il y a à peu près 20 jours. C'était à l'émission de Richard Martineau à Cube. Donc, gros chalote à Pierre-Olivier Zappa et Jérôme qui s'en allait tout bonnement un samedi 19 avril 2014 filmer des images pour la bonne nouvelle TVA qui est devenue ce que c'est devenu, le cocoton. Puis, ironiquement, vendredi 19 avril 2024, donc 10 ans plus tard, je serai à Laval. Concours de circonstances avec mon ami Riff Tabarachi, on s'en va voir Bruno Pelletier au cégep Montmorency, une salle de spectacle juste à côté, la salle André Mathieu, je pense que ça s'appelle encore comme ça, à côté de la Maison des Arts. En tout cas, fait que le 19 avril, pour les 10 ans du cocoton de Laval, on va être à Laval, mais pour une toute autre raison, un spectacle de Bruno Pelletier. Fait que c'est ça qui est ça. Je voulais vraiment souligner le cocoton de Laval parce que ça a été important dans ma vie, surtout en termes de blagues. Surtout mes 35 ans, moi, ça a été souligné pendant la pandémie. Puis mes amis m'ont amené les yeux bandés de Montréal jusqu'au Centre de la Nature pour revivre l'expérience cocoton. Fait qu'on a fait un petit cocoton. Ça n'a pas fini avec des enfants, là, puis une bagarre générale. Puis ça, non, ça a été festif. Mais c'est ça. En tant que pandémie, on était au cocoton du Centre de la Nature sans faire un. Il y a bientôt 3 ans. Oui, il y a 3 ans déjà. Puis après ça, ça a fini au Gérard Patate sur Curé Labelle. On va y aller en musique, si vous voulez bien. Je vous parlais de No Doubt tantôt. Et hier, je parlais des débuts ska de No Doubt, ce qui m'a rappelé la chanson Cellulaire des Appendices. tiré de leur album Les Appendices chantent les chansons de la huitième, la saison 8 et aucune autre, mais ils voulaient quand même un super long titre d'album. C'est ça le nom de l'album de la saison 8. Par la suite, ça va être Rose, tiré de l'album Virer nos vies, la chanson Somerset sur les ondes de marge. Trop plus d'hits. Bonne émission.
Jamais mort.
Fleur fanée, serait temps qu'on redécore la porte. Tu souviens-tu si j'étais tannée? Toujours qu'on se pète la face. Je sais que j'ai jamais pris mon temps, mais là j'ai pu le temps. Plus tu parles, plus ça paraît. J'ai toute ta peur encore. J'ai peur qu'avec toi ce soit pas. I'm a pareil. Et plus ça paraît, pour moi c'est pareil. Et plus ça paraît, pour moi c'est pareil. Et plus ça paraît.
Rose Somerset de l'album Virer nos vies, puis avant ça c'était comme Lubick, parce que des fois Jazzler, là, j'ai hâte qu'on change la version, parce que tu mets une chanson, puis bizarrement, pouf, c'est comme Arturo Brachetti, la chanson mystérieusement disparaît, puis après ça c'est le Stop Next qui apparaît, puis c'est une chanson qu'on n'a pas choisi qui joue. Fait que vous avez entendu un début d'une chanson de Lubick, je pense que c'était Home Run, et avant ça c'était Les Appendices cellulaires. J'adore la fin de la chanson, tu sais, qu'est-ce qui est mort, le ska sera jamais mort, ça me fait rire à chaque fois. Gabriel Attal, premier ministre de France, est venu également, excusez-moi, chargé de la planification écologique et énergétique. Il était de passage au Canada la semaine dernière. J'ai vu ça au téléjournal 22h, discours à Ottawa, puis il y avait comme cœur de pirate en première rangée. J'ai pas trop compris. D'après moi, il devait avoir des gens qui faisaient le pont entre le Canada et la France. J'ai pas trop compris. En tout cas, il était là. Pour ça, il était de passage au Québec. Il a été voir François Legault. François Legault qui a tweeté « J'ai donné 4 livres québécois à Gabriel Attal. » Contre-coup de Marie Laberge, raté d'Hugo Meunier, l'horizon des événements de Biz et les bleus d'Étienne Alexandre Beauregard. Il y a une erreur là-dedans. Le livre d'Étienne Alexandre Beauregard, c'est non pas Les Bleus, mais Le Retour des Bleus, qui est paru en début d'année. Ce petit malaise pour moi, ça doit être bien personnel, là, mais Étienne Alexandre Beauregard n'a pas seulement écrit un essai, Le Retour des Bleus, mais il est également au cabinet du premier ministre du Québec. Il est rédacteur et conseiller à la planification stratégique au cabinet du premier ministre du Québec. C'est la portion, conseiller à la planification stratégique qui est nouvelle depuis mars, parce que de juillet 2022 à mars 2024, il était seulement rédacteur. Je dis seulement, c'est quand même une grosse job, le rédacteur. Rédaction d'allocutions, de textes et de notes pour le premier ministre du Québec, adjoint du conseiller spécial. C'est pas, c'est juste... Tu sais, c'est comme quand je vois Danny Saint-Pierre à Bonsoir, Bonsoir. Je fais, ouais, tu sais, c'est ton beau-frère à un moment donné. Des fois, c'est bon. Là, c'est comme c'est ton boss qui donne ton livre. Puis il y en a 4 à donner au Québec. Il y a 4 livres québécois à donner au premier ministre. Tu te dis, vraiment, comme dans les 4, fallait qu'il y ait Le Retour des Bleus d'Étienne Alexandre Beauregard. Je sais pas. En plus, tu sais, il y a comme un lien de travail. Monsieur Beauregard travaille pour François Legault, pour son cabinet. Je sais pas. J'ai vu ça vite, puis je fais comme moi, hein, en tout cas. Mais je veux pas m'attarder sur la visite de Gabriel Attal. Quoique la semaine dernière, c'est ça, on parlait beaucoup de colonisation. Il y a aussi Paul Saint-Pierre Plamondon qui a parlé de colonisation aujourd'hui, puis il a même été très loin. Je vais vous faire jouer un extrait avant de poursuivre avec la suite. Mais tu sais, la semaine dernière, il s'est passé beaucoup de choses là au Canada. Il y a un député acadien qui justement voulait que le serment au roi soit plus obligatoire, mais soit optionnel. Tu sais, que tu puisses devenir député au fédéral en ne soyant pas obligé de prêter serment au roi. Ça a été battu, puis là, ça a l'air que c'est juste du côté conservateur, de ce que j'ai compris, qui ont commencé à chanter God Save the King. Puis là, t'es comme, tu sais. Puis là, de notre côté, on est là, on est bien content que le premier ministre de la France vienne au Québec. Je sais pas, tu sais, il y a comme un... Tu sais, les colonies de la Grande-Bretagne puis de la Nouvelle-France, je veux pas, tu sais, c'est comme un peu dans notre psyché, tu sais, puis je vais revenir avec les accents là-dessus. Mais j'écoutais Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui en conférence de presse à l'Assemblée nationale, puis... Je sais pas. J'ai comme des doutes avec comme son lien avec le grand dérangement, la déportation des Acadiens, puis pourquoi on devrait voter oui au prochain référendum. Mais je veux juste vous faire écouter avant ce qu'il a dit aujourd'hui.
Pour vous, dans les derniers jours, il y a eu un événement déclencheur.
Oui, c'est-à-dire que je rattache ce que je qualifie de charge d'offensive contre le Québec. Je le rattache avec la longue histoire du Québec dans le Canada et la triste histoire des francophones et des peuples autochtones dans ce régime d'origine coloniale. Tout ça est en continuité. Justin Trudeau est en continuité avec son père, Pierre-Éliott Trudeau. Donc, je suis toujours surpris dans les commentateurs de l'actualité d'entendre qu'il n'y a pas d'intention derrière ça. C'est vraiment d'oublier de l'histoire récente comme le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne sans le Québec, d'oublier l'œuvre de Pierre-Éliott Trudeau, d'oublier ce que les francophones ont vécu dans les déportations, les exécutions, l'interdiction d'avoir de l'éducation en français. Ce régime-là a été constant durant toute son histoire. Et moi, ce que je dis, puis ça a fait plus des mois que ce que je pensais parce que ça me semble évident, si on ne bouge pas, il va nous arriver ce qui est arrivé aux francophones dans toutes les autres provinces canadiennes. Et ça prend pas un gros cours de l'histoire du Canada pour rattacher les événements récents avec ce que le Canada a toujours été vis-à-vis les francophones et les peuples autochtones dans toute son histoire.
Le mot poli serait chargé. Ça me fait rire d'entendre des gens du Parti québécois nous parler de régime colonial, puis quand on parle de racisme systémique ou de d'autres types de colonisation, là ils veulent pas embarquer là-dedans. Mais là là-dessus, oui, puis de parler au nom des peuples autochtones puis des Canadiens pour parler par la suite du référendum du Québec, tu sais, puis la déportation des Acadiens, c'est ça m'a toujours fait rire le terme utilisé, le grand dérangement, c'est comme on veut pas déranger, on veut pas dire qu'on tient on voulait pas se faire assimiler par des colons anglais à l'époque, puis tu sais c'était la Grande-Bretagne à l'époque, c'était pas le Canada, fait que j'ai l'impression qu'on mélange beaucoup de choses là. Oui, les colonies britanniques sont devenues ultimement le Canada, mais aussi tu sais la Nouvelle-France qui a été conquise, annexée par la force, comme le disait Falardeau. Mais puis là, c'est ça, utilise le terme grand dérangement. Moi, j'ai toujours trouvé ça, non pas rigolo, mais tu sais, comme, c'est important ce qui s'est passé. Puis on dirait que le terme grand dérangement, c'est comme, on veut pas déranger. Il s'est passé de quoi? On veut en parler, mais on veut pas déranger non plus. Mais c'est ça, à l'époque, ils voulaient pas justement se faire angliciser. Ils étaient catholiques, ils étaient francophones. Donc, certains sont partis au Québec, d'autres, près de 8000, je crois, selon les chiffres, ont été déportés. Mais de parler de ça pour parler par la suite de voter oui au référendum, je sais pas. C'est comme si le Parti québécois voulait un peu s'approprier ce qui s'est passé avec les Acadiens puis les peuples autochtones pour comme... Nous aussi, on a souffert. Je sais que le peuple québécois a souffert. Le peuple francophone a souffert. Les francophones, à la grandeur du Canada, ont souffert. Puis là, je trouve ça intéressant que Paul Saint-Pierre Plamondon parle des francophones dans le reste du Canada. J'espère que le terme francophone hors Québec, tranquillement pas vite, on va se rendre compte qu'on devrait arrêter d'utiliser aussi. Je dis pas que Paul Saint-Pierre l'a utilisé, mais c'est tout ce cheminement-là de... Tu sais, les francophones à travers le Canada, oui, on devrait s'unir pour parler de la minorité francophone qui l'a pas facile dans plusieurs provinces, puis que quand la minorité anglophone ici au Québec se sent marginalisée, c'est comme peut-être juste vous comparer avec les franco-ontariens par exemple, qui eux se battent pour avoir un hôpital francophone ou le conserver dans ce cas-ci, versus tous les services qu'on peut recevoir en anglais au Québec, je pense que la comparaison est pas tolérable. Mais là c'est ça, moi c'est me fait tiquer, je sais pas, je vois aller Paul Saint-Pierre Plamondon depuis quelques semaines, puis je sais pas. Je comprends que le Parti québécois là fly vers un gouvernement majoritaire dans 2 ans, ce qui fait que ça se peut que ça arrive pas non plus, parce que moi, à l'époque, c'était le NPD qui est en avance, l'ADQ un moment donné qui est en avance, puis ça, c'était même pendant des campagnes électorales. Là, 2 ans en avant, vous allez voir, il y a beaucoup, même des gens qui étaient favorables au PQ là, jusqu'à tout récemment, je pense à Radio X, par exemple, Dominique Moret, quand ils ont monté dans les sondages, c'est dans l'ADN de Radio X, être contre l'establishment, fait qu'un parti qui est en attente de donner le gouvernement, c'est pas vrai qu'on va backer ça. Puis là, ils sont revenus à leurs bonnes vieilles amours, c'est-à-dire le Parti conservateur du Québec. Puis on veut rien savoir d'un référendum. Mais je sais pas, commencer à tabletter un possible troisième référendum avant la fin de la décennie, Puis en commençant en me parlant du grand dérangement, je sais pas, j'ai bien de la difficulté avec ça. Mais je voulais vous parler de Gabriel Attal, mais surtout de la France, parce que la semaine dernière, à une émission que je rattrape toujours en reprise, il y a comme deux reprises là, de l'émission, on va se le dire, l'émission en direct, pas tout le temps, je pense, mais la plupart du temps en direct, je pense, à 16h, il y a la reprise à 23h, puis le lendemain avant midi, fait qu'il y a comme trois diffusions de cette émission-là. Et puis, le 11 avril dernier, il y avait Serge Postigo, qui est de passage, bien sûr, au Québec pour les producteurs. Puis, comme Serge Postigo, justement, on fait les producteurs là-bas en France, on lui a posé une question par rapport justement à la France et cette manière que là, et puis j'ai appris ça à l'émission, on va se le dire, qu'on va prendre des villes au Québec et des villes en France, qu'on va jumeler pour avoir et pousser des idées plus écologiques. On écoute Serge Postigo, voici ce qu'il avait à dire par rapport aux voitures à Paris. C'était le 11 avril dernier à l'émission, on va se le dire sur les ondes de Radio-Canada.
On en parlait en début de l'émission, parce que le Bordeaux-Québec, Lyon, Montréal, Montpellier, Sherbrooke, ce sont pas des nouveaux cépages, mais ce sont bien quelques-unes des 150 municipalités du Québec en ce moment et de la France qui sont jumelées justement pour s'aider à être plus écologiques. L'idée, c'est d'importer peut-être certaines initiatives. Tu passes du temps en France, qu'est-ce qu'on pourrait importer des Français? De quoi on pourrait s'inspirer?
Ah, mon Dieu! Leur caractère.
Oui, non, mais je parle d'initiative écolo, évidemment.
Écoute, oui, c'est sûr qu'à Paris, Anne Hidalgo est vraiment une maire qui est très portée là-dessus, comme il y a les Verts et un mouvement de la politique municipale en France qui est très, très porté là-dessus. Mon questionnement là-dessus, oui, il y a une végétalisation de l'espace public qui est en train de se faire et qui est magnifique. Le questionnement que j'ai là-dessus, moi, c'est l'impact sur l'ensemble de la société de ces choses-là. Comme en ce moment, Anne Hidalgo veut passer à 50 km/h maximum le périph, donc le périphérique autour de Paris.
Oh boy.
Et le mot faible. parce que quand on ferme les quais de Seine, quand on piétonnise presque la rue Tivoli, des choses comme ça, ces voitures-là, est-ce qu'elles s'éliminent? Est-ce que des gens disent, je peux plus, donc je vais vendre ma voiture? Non, il passe par ailleurs.
Ouais.
Il passe par ailleurs. Et à ce moment-là, faire 4 km à Paris, ça prend 45 minutes, une heure de voiture qui pollue.
Ce que j'aime de l'émission, on va se le dire, c'est que des fois, il y a des propos variés parce qu'il y a des personnes de tout horizon qui vont à cette émission-là. Ce que j'aime moins des fois, c'est que il y a 5-6 personnes autour d'une table, chacun choisit un sujet à l'arrière, animé par Sébastien Diaz. En arrière de lui, il y a comme, tu sais, en gros titre, on va dire le titre d'un article, d'une revue, d'un journal papier ou que ça soit électronique. Puis là, une personne parle de cette nouvelle-là. Mais le problème, c'est que des fois, les gens sont moindrement renseignés, sont plus ou moins renseignés, ou puis là, tu sais, ça va d'un florilège d'opinions qui des fois sont basées sur, tu sais, leur propre expérience. Puis là, j'écoutais juste ce que Serge Postigo disait. Bon, lui, il était à Paris. Voici ce qu'il a vécu à ce sujet. Puis là, il nous dit justement, ces nouvelles mesures-là ne vont pas réduire le parc automobile, tu sais. Puis là, le 50 km en périphérie, chose qui va être en vigueur à partir du mois de septembre. Puis là, ça a l'air que la mairie, elle dit justement, la maire de Paris, mairesse. Moi, je dis mairesse, mais en France, c'est ça. Tu sais, même si c'est une femme qui occupe un poste. Ils utilisent la fonction au masculin. Moi, ça me gosse profondément, mais bon, c'est peut-être juste moi aussi. Mais ils utilisent justement les Jeux Olympiques, l'arrivée des Jeux Olympiques cet été pour comme faire certains changements. Certains voient ça d'un mauvais œil, d'autres qui disent écoute, ça peut avoir des points bénéfiques parce que justement la réduction de la vitesse peut améliorer la qualité de vie carrément parce que les particules fines. On parle beaucoup des véhicules à essence, mais les véhicules électriques, ça va être la même chose. Là. Les voitures roulent sur des pneus, puis justement, les pneus, à force d'accélérer et de freiner, ça crée des particules fines, puis on respire ça. Et puis, c'est dans l'Express qui chiffrait, en fait, en France, à 40 000 personnes décédées par année, selon la santé publique en France, à cause, justement, des particules, de la pollution des particules fines. Fait que, tu sais, des fois, c'est... Oui, c'est une balance des inconvénients de la vie, mais tu sais, ultimement, t'es comme, est-ce que vous voulez réduire la vitesse d'automobile et qu'il y ait moins d'automobiles pour avoir une meilleure qualité de vie, puis ultimement, il y a moins de monde qui meurt? Peut-être qu'on va aller moins rapidement à certains endroits, mais peut-être qu'on va vivre plus longtemps, ou tu vas vivre moins longtemps, mais tu vas être plus rapide à faire plus de déplacements. Je sais pas. Là, j'ai l'impression de vous citer La La Land, les vrais savent, mais je m'embarquerai pas là-dedans. Mais j'ai une petite recherche rapide, là, pour voir est-ce que ça fonctionne ou non présentement. Pour certains, c'est des faibles pourcentages. Pour d'autres, c'est une amélioration parce que le parc automobile n'arrête pas d'augmenter. On peut penser, par exemple, ici à Montréal. Mais il y a une diminution des voitures immatriculées, pas juste à Paris, mais dans le Grand Paris et dans la métropole. En 2018, la diminution du nombre de véhicules immatriculés dans la métropole du Grand Paris s'accentue. En 2023, avec 31 000 voitures particulières, des VP, et 6 000 véhicules utilitaires légers, des VUL, de moins sur une année. Là, si on regarde les chiffres, on parle quand même de près de 2,5 millions de véhicules personnels. Ça fait quand même beaucoup de véhicules, mais tu sais, sur un an, il y a eu une baisse de 31 000 véhicules, donc 1,23%, donc moins 1,23%, puis les véhicules légers moins 1,67. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution moyenne sur 5 ans, parce que sur 5 ans, ça a baissé de 0,47%, puis sur un an, précisément, 1,23%. Fait que 31 000 véhicules sur 2,5 millions, c'est pas grand-chose pour certains, mais d'un autre, c'est au moins, il n'y a pas une augmentation. Il y a même une diminution. Puis plus il va y avoir des mesures de la sorte, ben plus peut-être les gens vont se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ma voiture? Ce qui est intéressant aussi avec ce que Serge Postigo par la suite disait, lui disait, moi, je me déplace beaucoup en scooter, en trottinette électrique. Des fois, peut-être, je vais hypothéquer ma vie parce que des fois, ça peut être dangereux dans certaines rues parisiennes. Mais que si vous voulez qu'il y ait moins de voitures, amener justement du transport en commun efficace, accessible. Et c'est tout le débat en France présentement, et surtout à Paris, concernant la limite de 50 km pour le boulevard périphérique, en fait, parce qu'il est censé avoir là, ça arrive juste en 2030. C'est ça le problème. Ils disent, ben là, ça se fait trop facilement, mais là, c'est l'œuf ou la poule, dire, comment ils appellent, le Grand Paris Express, l'attente du Grand Paris Express, ça sera en 2030. Donc, peut-être arriver avec le 50 km/h une fois que le transport en commun dans ce coin-là va être encore plus efficace. D'autres disent, non, faut pas attendre parce que le problème est maintenant. Ça, dans ce cas-ci, c'est politique. Mais au moins, si tout le monde y va avec la même perception de base, qui n'est pas juste une perception maintenant, mais qui est chiffrée, dire, ben il y a trop de chars, les chars polluent, puis si on veut réduire nos gaz à effet de serre, il faut faire de quoi? Donc, oui, verdir Paris, c'est bien, mais il faudrait faire de quoi également par rapport aux voitures, puis à la voiture solo aussi. Puis là, on l'a vu à Montréal, l'annonce par rapport à Communauto, par exemple, pas que je veux leur faire de la pub, mais ben, c'était pas encore... j'ai des amis qui habitaient dans l'ouest de la ville, puis là, c'est à la Chine, je pense, maintenant que ça vient d'embarquer cette semaine. Les gens disaient, moi, je voudrais bien prendre Communauto, mais Communauto ne se rend pas dans mon coin. Ben maintenant que c'est là, des gens qui peut-être vont se dire, je vais délaisser ma deuxième voiture, ou même peut-être ma première voiture, afin de pouvoir prendre Communauto. Et quand j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer pour une raison XYZ, ben au moins le bénéfice est là. Puis la voiture, ben comme elle n'est pas à un seul ou une seule propriétaire, elle va pas rester dans la rue 90% du temps, mais va pouvoir être utilisée par plusieurs personnes. Il y a Serge Postigo également, toujours dans l'émission, on va se le dire, de la semaine dernière, le 11 avril dernier, parlait de son accent également lorsqu'il vient au Québec et lorsqu'il va en France parler. On écoute Serge Postigo. Moi, il y a quelque chose que j'ai su il y a quelques années que je n'étais pas au courant, qui va parler pendant cette court extrait-là. On écoute.
On parle de la France, entre autres. Bon, vis-à-vis de la France, est-ce qu'on on en vit de la discrimination par l'accent?
Ben oui, ça c'est clair. Mais en même temps, l'accent, ça dit quoi? Ça dit d'où tu viens.
Ouais.
Ça dit où tu as appris à parler. Par où le français est entré dans ta vie, où tu vis, c'est vivant une langue. Et une langue, ce n'est pas qu'un lexique ou un vocabulaire ou une grammaire, c'est aussi une façon de le parler, une façon de façonner en bouche qui traduit non seulement l'esprit, mais la contextualisation de ta pensée. Et donc, oui, on en subit. Moi, moi, j'ai fait une entrevue à la radio l'année dernière, j'étais au théâtre, juste avant de jouer, à une radio ici qui était un retour à la maison, le plus écouté ici. Les deux animateurs font une entrevue avec moi. Et après, tu sais, une entrevue, on est au téléphone, font « Merci Serge ». Donc, t'attends. Et là, tu entends ce qu'ils continuent de dire
oui.
en ondes.
Oui.
Et ils se sont mis à m'imiter et à rire de mon accent français.
Non!
Et là, je me suis dit, ça m'atteint plus ou moins, je t'avoue, depuis que je suis petit. Ici, on m'a toujours demandé d'où je venais et on s'est moqué un peu de mon accent français. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis français,
exact.
Né en France, de parents français. Deux de mes trois enfants n'ont jamais été à l'école en France. Ma femme est française. Je veux dire, voilà.
Oui.
Et depuis que je suis petit ici, on rit de mon accent. Depuis que je suis à Paris, on rit de mon accent. Et comme je disais tout à l'heure à quelqu'un ici, nulle part au monde, en m'entendant parler, on dit « Ah, un gars de chez nous ». Nulle part. Je suis linguistiquement apatride, en fait.
On va revenir justement sur l'émission du retour dans quelques instants. Mais moi, c'est ça, j'avais appris ça il y a quelques années que Serge Postigo était né en France, puis il a déménagé dans son enfance ici au Québec. Tu sais, pour moi, Serge Postigo, quand j'étais jeune, c'était 4 et demi. Puis il me semble qu'il avait joué dans Ouattatata aussi, mais peut-être que c'est moi qui... Peut-être moi, mais dans mon ça me semble que je l'avais vu à Ouattatata, mais ça c'est vers le début que j'écoutais. Fait que je pense que c'était une fin de rôle pour lui là. Il par la suite s'en allait à 4 et demi. Mais il me semble que j'ai un souvenir de lui dans Ouattatata. Mais je savais pas qu'il était né. Puis je trouvais ça vraiment intéressant ce qu'il disait par rapport aux accents. Tu sais, il y a Isabelle Maréchal également. Il y a quelques années, elle animait Zone Franche. Tu sais, puis elle co-animait avec Raed Amoud. C'est une émission à Télé-Québec. Puis un des sujets c'était par rapport à l'immigration. Puis t'es comment, Raed et moi, qui pensez-vous qui est né au Québec et qui pensez-vous qui est immigrant? Nous sommes tous deux immigrants parce que je suis né moi aussi. Elle a pas dit moi aussi, mais elle est née en France. Puis à l'âge de 8, 10 ans, je crois, elle est déménagée au Québec. Puis là, il y a tous les biais dans ce cas-ci, tu sais, parce qu'une personne peut-être a la peau blanche, on pense moins que cette personne-là est immigrante. Et surtout, je parlais de colonisation tantôt, puis ce rattachement qu'on a à la langue, tu sais, puis en anglais, l'accent british est tellement plus distingué que l'accent des United States of America. Par contre, moi, honnêtement, c'est pas une question. Comment je vous dirais ça? C'est pas une question d'accent pour moi. C'est peut-être une question d'intonation. Tu sais, quand j'entends James Earl Jones me parler, cette voix est magnifique. Tu sais, pour moi, c'est une voix qui est importante, qui est profonde, qui est belle, qui est jolie. Pour moi, c'est pas une question d'accent. Peut-être une question justement de la voix en tant que telle. Même chose pour Morgan Freeman aussi, mais. Il y a comme cette vision-là, même chose avec le Québec. C'est un accent français, c'est tellement plus beau qu'un accent québécois. Puis on a entendu beaucoup parler des accents, tu sais, avec le Québec. Il y a Lacan et nous récemment. J'avais entendu justement des gens sur TikTok, Instagram. Je pense à Renzel Dashington qui parlait de Lacan et nous. Puis c'était comme il y a des Haïtiens qui se sentent moins représentés dans cette émission-là parce que les protagonistes parlent québécois. Ils n'ont pas un accent haïtien comme nous on pourrait avoir. Plus c'est toute cette vision-là que moi je connaissais plus ou moins de comment est-ce qu'on peut être représenté à la télévision. Bien sûr qu'une couleur de peau, mais également une histoire, mais aussi avec une langue et une intonation, une manière de parler. Mais c'est quoi parler québécois aussi? Parce que si vous êtes aux Îles-de-la-Madeleine, si vous êtes au Saguenay, si vous êtes à Laval, si vous êtes à Montréal, je veux dire, il y a beaucoup de niveaux de langage aussi, mais il y a également beaucoup d'accents qui sont différents, tu sais. Je pense à Magali Lépine-Blondeau lorsqu'elle parlait de la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, où en France, l'émission était sous-titrée. Bien sûr, nous ici, en tant que peuple québécois, on avait un malaise par rapport à ça. Mais je me rappelle plus le poste. J'ai encore la télé. Puis là, des fois, je pitonne. Il y avait une émission où ils suivaient des pêcheurs. Il y en avait, je pense, dans les Maritimes, puis également aux Îles-de-la-Madeleine. Puis ces gens-là parlaient un très bon français. Moi, je comprenais ce qu'ils disaient. Oui, il y avait un accent qui peut-être on est moins habitué d'entendre. Si vous êtes habitué peut-être d'écouter certaines émissions seulement québécoises, tu sais, puis vous n'êtes pas familier avec les accents des Maritimes, les accents des Madelineaux, par exemple, ou de l'Acadie. Mais ces gens-là aussi étaient sous-titrés. Puis moi, j'avais un malaise de voir ça. Je comprends parfaitement ce que j'entends présentement. Pourquoi on aurait besoin de sous-titrer ça, tu sais? C'est pas Occupation Double ou Survivor Québec où il y a un mot qui est dit en anglais puis on doit sous-titrer. Fait que le rapport à la langue, le rapport également à l'accent, je le trouve très intéressant. Je trouve ça intéressant ce que Serge Postigo disait aussi. Puis il y a Anne-Elisabeth Bossé qui, elle aussi, est allée en France pour le travail. Puis elle, c'est la vision aussi de quand t'es une Québécoise qui va en France puis on parle seulement de ton accent. Je trouvais également son propos très intéressant. On écoute.
On a quelque chose avec l'accent français. Je sais pas pourquoi ça nous attaque comme ça, là, mais moi, je suis allée une fois à Cannes, puis on fait des entrevues avec des médias français. Puis si on parle avec notre accent, si on garde vraiment notre accent québécois, ils parlent que de ça. Ils nous regardent comme des bêtes de foire.
Oh, québécois.
Puis là, on n'est pas capable de passer le contenu de notre film. Fait que là, on essaie de, ben, un peu, tu sais, peaufiner notre langage. Puis même si on veut travailler là-bas, on veut montrer qu'on est comme polyvalent, là. Mm-hmm. Et là, c'est sûr qu'ici, on se moque, on se prend pour d'autres. Je veux être comprise. Je veux développer le marché. Je m'excuse.
Je veux être comprise. Donc, des fois, c'est ça. Tu sais, Monia Chokri, lorsqu'elle présentait un de ses films, je crois que c'était Babysitter. Des fois, j'entendais des entrevues d'elle en France. Puis là, elle avait plus que chopé l'accent. Puis là, t'écoutes ça, tu te dis, tu sais, en tant que Québécois, est-ce qu'elle a besoin de faire ça pour être comprise en France? Ou c'est parce qu'elle voulait se faire comprendre également? Lorsqu'elle a gagné son César, elle a pas chopé l'accent. Là, elle a parlé comme on l'entend ici habituellement. Puis je crois qu'elle a été comprise. Mais la ligne est mince, justement, entre ce sentiment-là de dire, moi, mon but, c'est de me faire comprendre. Si j'emploie certains mots, certaines expressions, ou j'utilise certaines expressions dépendamment où je suis, ou certaines références également dépendamment où je suis, je trouve ça intéressant aussi. Des humoristes qui parlent ça quand ils sont en rodage à travers le Québec, certains patois ou juste certaines références qu'ils vont pas utiliser parce que c'est pas tout le monde qui a la même référence. On peut penser également à la grandeur du Canada. T'sais, nous, ici, on est à Montréal. Moi, je suis à Montréal. T'sais, quand j'écoute Radio-Canada, ça parle de mon quotidien, tu sais. Mais des fois, faut pas oublier qu'il y a certaines émissions qui sont diffusées d'un océan à l'autre, puis que si j'étais sur l'île de Vancouver comme j'y étais en 2017, puis j'ouvre la radio, puis j'entends une émission qui me parle justement du trafic à Montréal, je peux commencer à me dire, est-ce que justement cette radio publique s'adresse à tous les francophones à la grandeur du Canada ou que on parle un noyau très important, un bassin de francophones au Québec et à Montréal. Fait qu'il y a comme, tu sais, ça part de Montréal et de Toronto là. Si on parle de CBC, ça parle de deux grosses métropoles à travers le Canada. Puis si vous êtes en périphérie de ça, ben vous allez comprendre certaines références. Sinon, bon, on s'adresse de moins en moins à vous. Je trouve ça important aussi. Puis là, ils ont fait référence bien sûr à un maintenant qui est un mime, grâce à Mime Fruité. Moi, j'ai souvenir que Normand Marino, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était à l'émission de Louis-José Houd, lorsqu'il faisait ici Louis-José Houd à Radio-Canada. J'essaie de retrouver cet extrait-là, je ne l'ai pas retrouvé, mais je l'avais entendu avant Mime Fruité, mais lui, Mime Fruité a permis de rendre Normand Marino international, le vrai Normand Marino, parce que c'était un petit garçon à l'époque, qui est devenu grand, a fait une entrevue, je pense même au 15-18, puis là, il y a une vidéo qui apparaît de lui aussi lorsqu'il joue au hockey, puis là, il est dans la chambre des joueurs, puis quelqu'un qui l'a filmé, puis en tout cas, il roule ses airs encore de temps à autre, mais c'est rigolo. Il parle de Normand Marino toujours à l'émission dont on va se le dire.
Mais tout le monde a un accent.
Oui.
Ben oui. Ben,
surtout...
Normand Marino! Oh.
Mais bon... je l'ai pas y revenait.
Tout le monde a un accent. Tantôt, justement, quand je vous ai fait jouer l'extrait de Serge Postigo qui parlait d'une émission du retour il y a un an environ, puis comment il y a un an, c'était les producteurs, il a fait une tournée genre de quelques stations radio et écrit parlant justement du début des producteurs en France. Puis il a dit l'émission la plus écoutée. Puis là, t'es comme, tu sais, je connais les BPM, il parle-tu de l'émission du 98.5, de l'émission de Patrick Lagacé? Ça m'a pas pris beaucoup de temps pour peut-être retrouver l'extrait. La seule chose, c'est que l'extrait que j'ai retrouvé du 17 janvier 2023, c'était une entrevue préenregistrée de Catherine Beauchamp, qui, elle, était là-bas en France, qui a fait une entrevue avec Serge Postigo, puis par la suite l'a diffusée. Puis là, les animateurs qui étaient à Montréal, Patrick Lagacé et MC Gilles, réagissaient et commentaient, justement. Ils parlaient avec Catherine, qui, elle, était là-bas en France. Fait que c'est pas la même histoire que Serge Postigo a dit, c'est-à-dire lui, il est en entrevue en direct au téléphone, puis après ça, il a entendu les personnes parler. Mais on écoute un extrait. MC Gilles et Patrick Lagacé et Catherine Beauchamp, le 17 janvier dernier, non pas dernier, mais 2023, au 98.5, à l'émission Le Québec maintenant.
Le standing ovation est extrêmement rare. Soit au Québec, on se lève presque systématiquement. D'accord? C'est pas que c'est moins bien, que ça a moins de valeur, ça veut dire juste autre chose. Le standing ovation chez nous veut dire... on reconnaît le travail, on reconnaît le truc et tout ça. Ce qui fait que ça se lève très, très, très souvent chez nous. Et c'est super. Ici, ça veut dire c'est exceptionnel. Donc, on a beaucoup de chance. Et là, c'est, je te répète ce qu'on me dit, parce qu'évidemment, j'ai pas cette culture-là ici, moi, mais que c'est extrêmement rare que les gens se lèvent 8 fois sur 10, comme on a ici ce soir.
Alors voilà, oui, merci Serge Petitgo.
Et voilà. Fait que c'est ça. Si vous le croisez, ben vous me direz si son accent québécois est bien revenu.
Parce que dans la pièce, il a une phrase très québécoise. Puis là, il disait pourquoi justement je parle avec un accent, on va dire stéréotypé du québécois moyen, on va dire. Parce que là-bas, il disait qu'en France, pour eux, quand ils entendent un accent québécois, c'est principalement des humoristes qui tentent d'imiter l'accent québécois. Puis le seul qui le réussit très bien, c'est Gad Elmaleh. Puis justement, il connaît Serge Postigot. Mais les autres, plusieurs humoristes français, lorsqu'ils tentent d'imiter l'accent québécois, ils l'ont pas vraiment. Moi, personnellement, la seule personne, je trouve, qui l'a bien, c'est Gad Elmaleh. Faut lui donner, là, il est bon pour copier des accents, puis pas juste des accents, des blagues aussi. Mais c'est ça, c'est MCGL. Puis je sais pas si Serge Postigot parlait de ce moment-là précis, parce que ça corrobore pas vraiment avec son histoire, mais ça corrobore avec, on va dire, l'année. Mais ce qui était ironique, c'est que sur le plateau, dont on va se le dire, le 11 avril, il y avait MC Gilles. Fait que soit Serge Postigot est vraiment plus que galant et plus qu'un gentleman, il parlait de MC Gilles, ou il savait qu'il parlait d'MC Gilles, mais il n'a pas nommé son nom. Il a juste dit l'émission la plus écoutée du retour. Puis il savait qu'il parlait de lui, mais il a pas dit son nom parce qu'il est un gentleman, ou il parle d'une autre personne. Un jour, on va bien finir par le savoir. Mais MC Gilles, c'était le 11 avril. L'émission, je pense qu'elle était préenregistrée, parce que de mémoire, il était pas marqué en direct. Fait que c'était peut-être quelques jours avant le 11 avril. Là, on nous amène au jeudi 11 avril. Il a commencé l'émission où, justement, Sébastien Diaz lui a parlé de photos qu'il a prises avec Rodolphe Husny le 31 mars, c'est Poisson d'avril, Pâques également, où ils sont en voyage. Rodolphe Husny a un T-shirt de Pierre Poilievre, puis M. Cégil, la chemise ouverte, une chemise de Jésus qui boit une bière, voulait faire un Poisson d'avril. Puis ça a fait beaucoup jaser cette image-là. On écoute.
C'est notre collègue et ton collègue à la radio, Rodolphe Husny. Vous étiez en voyage.
Ben, c'est ça.
Et là, il y a le chandail, Pierre, gros bon sang, Poilievre. Tout est à côté avec un truc de Jésus.
Ben, c'est qu'il faut expliquer que c'était Pâques en premier, sinon on comprend pas trop pourquoi je suis
allé. Ah oui, OK, merci. Bon,
donc, c'était mon kit de Pâques que j'avais amené. Faut savoir aussi que Rodolphe Husny a travaillé pour le Parti conservateur. Oui. Moi, j'ai des amis de tous les partis, du Parti québécois, de Québec solidaire et même des conservateurs, voilà. Et en faisant ça, on s'est dit, c'est Pâques. Qu'est-ce que les gens vont croire? Est-ce que un couple gay conservateur, ce qui est quand même assez novateur. Peut-être aussi qu'il y a Jésus avec les conservateurs. Est-ce que Rodolphe, qui s'est mis à se faire texter, va se présenter pour le Parti conservateur, ce qui lui a créé certains problèmes parce qu'il y a des gens qui ne voulaient plus l'avoir comme analyste parce qu'ils disaient probablement que tu y vas. Donc là, c'est parti de tous les bords et c'est toujours comique de faire quelque chose comme ça parce qu'on le fait, t'envoies ça dans l'univers et là... Ça s'en va de tous les côtés.
Mais il y a eu un brainstorm, là, visiblement, parce que là, vous avez essayé de cocher le plus de cases possible pour que ça parte en...
Ouais, ça ressemblait plus à Entre deux puis Nocolado qu'un brainstorm. Mais oui. Mais je suis content que ça fasse réagir, puis je suis content que tu aies pensé que j'étais conservateur. Comme ça, s'il gagne à la prochaine élection, ben ça sera ça de positif. Peut-être que je vais avoir un emploi à Radio-Canada.
ça se pourrait très bien.
Ça a été diffusé le 11 avril. Il s'est passé de quoi, en fait, le 10 avril? Je vais revenir dans quelques instants avec MCG. Mais les photos sont encore là. Mais que Rodolphe Husny ait porté le T-shirt Pierre Poilievre, le gros bon sens, qu'il se fasse appeler par des gens, bon, on n'est pas sûr que tu veux chroniquer si tu te présentes pour Pierre Poilievre. Je dis, ouais, vous écoutez pas ses chroniques. Je pense qu'on sait où est-ce qu'il porte. Il est pas neutre, là. On sait où est-ce qu'il loge, Rodolphe Husny. Mais on va juste se déplacer, non pas au 10 avril, mais au 2 avril. Et diffusé sur YouTube dans ma semaine en mode cocktail avec MC Gilles, Léa Strelitzky, qui a un podcast qui est enregistré à l'Idéal, Bar et Contenu. On a compris que ça n'a pas été filmé et enregistré le 2 avril, mais plutôt le 19 mars dernier. Et j'ai réécouté ce balado-là, non pas le 2 avril, mais le 10 avril. J'avais vu ça passer, je me disais, je vais mettre une petite note, je vais l'écouter, ça va être intéressant. MC Gilles donne toujours un bon show dans des balados. Je l'ai écouté le 10 avril, qu'on a appris justement ce qui s'est passé au 98.5. J'y reviens dans quelques instants. Puis là, j'écoutais ça avec la nouvelle en tête qu'MC Gilles avait perdu sa job au 98.5. Écoutez juste l'introduction de Léa Strelitzky.
Bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Dans ma semaine en mode cocktail. Je suis déjà en mode cocktail car j'attendais mon incroyable invité qui, figurez-vous, mesdames et messieurs, a un vrai travail dans une tour qui émet dans la ville de Montréal et même dans notre grande province. Il travaille pour une vraie radio qui est pas très loin de mon podcast, mais il fallait que je l'attende pour qu'il marche avec ses pieds jusqu'à mon podcast. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que mon invité de la semaine est Monsieur MC Gilles. Bonsoir!
Merci de l'invitation!
À cette époque-là, on ne savait pas qu'un mois plus tard, il n'allait plus avoir de vrai travail à la vraie radio, de faux travail à la vraie radio, en tout cas. Elle lui a demandé également cette question.
Toi, mon beau MC... Est-ce que tu passes des bonnes semaines ces temps-ci?
Oh,
est-ce que ta semaine
Dieu.
Se passe bien?
Non.
Parle-moi de quelque chose que tu aurais vécu professionnellement.
Ouais.
et ensuite personnellement. Bon. C'était quoi ta semaine?
C'est un mélange des deux.
Ouais.
Écoute, tu me croiras pas.
Tu me croiras pas. Fait que là, ça, c'est on apprend que c'est diffusé le 19 mars. On va le savoir dans quelques instants. En fait, que ça a été enregistré en soirée le 19 mars 2024, diffusé sur YouTube le 2 avril dernier. Pour les gens dans la salle, on est le 19 mars, il y a une nouvelle qui est pas encore annoncée, qui va l'être le lendemain. Et MC Gilles s'apprête à donner des informations qui devaient être confidentielles pour le 98.5, c'est-à-dire la personne qui va remplacer Patrick Lagacé à l'émission du retour.
Là, je peux le dire, parce que ça sera pas diffusé tout à l'heure à minuit, cette affaire-là. Là.
Non.
Bon, fait qu'on a 24 heures de...
Au moins, oui, on a plusieurs jours même.
Bon, ça va être très niché, mais je vais essayer de rendre ça intéressant, OK?
OK, parfait.
Il y a exactement une heure,
ouais.
Je suis assis devant Patrick Lagacé, qui est à ta place.
Oui.
Oh, fait que là, il y a une heure, fait que là, on comprend là que c'est le 19 mars, toujours extrait de l'émission, parfait, de la balado de Léa Strelitzky.
Donc, il y a quelqu'un qui va le remplacer au retour.
Oui.
Puis nous, on sait.
C'est qui?
On n'a pas le droit de le dire.
Non, mais...
Et puis, en résumé, c'est n'importe qui sauf nous autres.
Oui, c'est clair. C'est sûrement pas vous, sinon vous le sauriez quand même. Mais ça serait chien qu'ils vous le disent à la dernière seconde.
Mais on n'a pas le droit de nous le dire. Ça fait que là, tout à l'heure, les patrons nous ont rencontrés puis ils nous ont dit vous n'avez pas le droit de le dire. Mais c'est demain qu'on annonce.
Oh my God!
Et là, moi, il y a un cerveau de poisson rouge. Ah oui, mais je le sais depuis des mois, là, mais je fais semblant, je ne sais pas. Puis là, ils nous disent ça va être le remplaçant de Patrick, qui est Philippe Quentin. C'est correct. OK, Philippe Quentin va remplacer.
OK, fait que là, tu le dis à tout le monde parce que ça va être demain.
Fait que là, les gens dans la salle reçoivent une information privilégiée qui n'allait être diffusée que le 20 mars, donc c'est-à-dire le lendemain, entre autres dans la presse, Patrick de Mario Girard, le 20 mars. Philippe Quentin succède à Patrick Lagacé à l'émission Le Québec maintenant. Mais les gens dans la salle, même si c'est pas diffusé tout de suite sur YouTube, les gens dans la salle, il y a un bris d'entente de dire, ben moi, je dirais pas une information qui est confidentielle, mais c'est parce qu'il a fait un lapsus également à la radio. Il nous explique le lapsus qu'il a fait, toujours extrait de la balado de Léa Strelitzky.
Moi, tantôt, en ondes, donc je reviens à mon histoire, il y a une heure,
Je
suis assis devant Patrick Lagacé, et on revient d'une pause, et je dis, tu sais, Philippe?
Oh my God, fait que t'as appelé Patrick Philippe.
Et là, il y a un silence, puis là, et là, évidemment, j'essaie de me sortir du trou à la Guillaume le Messie-Vierge, et je calme.
Parce que mi-mars, justement, Guillaume Lavitie-Vierge, j'ai pu aller retrouver, justement, le 10 avril dernier, l'émission du 19 mars où il y a le fameux lapsus, parce que c'est un micro, ça s'invente pas, là, c'est un micro sur qui pourrait remplacer Guillaume Lemétivierge à l'animation du chanteur masqué. Parce que là, faut se rappeler, le mois de mars, Guillaume Lemétivierge essaie de faire de l'humour avec un boulot, se rend pas compte qu'il y a quelque chose d'écrit sur le boulot, c'est ce qu'il nous dit. En tout cas, vous comprenez l'histoire. Puis là, après ça, TVA qui annonce que Guillaume Lemétivierge ne sera plus animateur de l'émission du chanteur masqué. Puis là, ils ont fait des sondages sur les médias sociaux, savoir qui pourrait remplacer Guillaume Lemétivierge. Et là, arrive ceci.
Il me semble que ça te prend quelques heures de vol à l'animation d'un grand plateau de variété.
Hey, entre toi et
avant
moi,
de commencer ça.
Tu sais, Philippe, c'est...
Philippe?
Excuse-moi, c'est Patrick, excuse-moi.
Ça va bien, le lapsus aujourd'hui, les gars?
C'est un beau lapsus. peut-être que j'ai un don de voyance. Non, Philippe Quentin serait peut-être bon pour Radio.
On enchaîne, s'il vous plaît.
Mais, tu sais, pour te dire que...
Tu sais, quand il y a comme s'enfarger avec un lapsus, puis comme poursuivre plus que le malaise, puis ça, c'est toujours le 19 mars. Là. L'annonce se fait le lendemain, mais lui a été rencontré par les patrons avant pour dire, bon, la nouvelle personne, ça va être Philippe Quentin. Si Gilles dit, ben moi, je savais déjà depuis un petit bout, ça devait se tramer. Vous savez comment c'est, les nouvelles dans un bureau et des gens qui vont occuper une nouvelle fonction. Mais il y a le lapsus, puis comme, tu sais, il l'a poussé quand même assez loin, le lapsus. Ça, c'était le 19 mars au 98.5, en soirée à la balado de Léa. MC Gilles parle justement du visage de Patrick Lagacé lorsqu'il fait ce lapsus et poursuit.
Et là, Patrick est blanc comme un drap.
Oh my God!
Parce que nous, tu sais, ça n'a pas d'impact. Sérieusement.
Ça n'a pas d'impact.
Mais non.
Mais il y a quand même un, tu sais, quand même.
Non, mais sérieusement, c'est de la radio. Tu sais, on a tous un égo démesuré, mais dire plus de choses que j'ai pas le droit de dire.
Voilà, on apporte une autre bière pour mettre les gens en contact.
Oui,
une autre bière.
C'est important, mais c'est pas tout le monde qui. Donc, je termine mon anecdote.
Oui.
Donc, fait que c'est ça. Là, après ça, tout le monde vient me voir, me chicaner, me dire t'as ouvert, t'as une grande gueule. Mais c'est ça que je suis. Je n'ai pas de filtre.
C'est important, cette phrase.
C'est ça que je suis. Je n'ai pas de filtre.
Puis à la radio, avoir un filtre, des fois, c'est important, surtout quand on fait de la radio en direct. Ça, c'était le 19 mars. C'est diffusé sur YouTube le 2 avril. La veille, le 1er avril, toujours Mario Girard, Parlons Radio, qui est un de ceux à la presse qui aime parler de radio, parce que depuis que le Journal de Montréal occupe, il ne diffuse plus les BPM des autres stations de radio. Fait qu'il y a moins en moins de journaux qui parlent, en fait, des codes d'écoute de la radio, de l'univers de la radio. Fait que j'aime ça quand Mario Girard écrit sur la radio. Puis le 1er avril, son texte commence par MCG aura son émission 98.5. L'annonce de l'arrivée de Philippe Quentin dans le fauteuil actuellement occupé par Patrick Lagacé au 98.5 a complètement éclipsé une autre annonce, en plus d'assurer une présence au quotidien dans le retour à l'émission, à la maison, pardon, donc une présence au quotidien. MCG le présentera une toute nouvelle émission le vendredi de 18h30 à 20h. Il s'agit d'un résumé de la semaine. Là, t'es comme, OK, résumé de la semaine. Qui sera fait à partir de moments radiophoniques du 98.5. Fait que c'est comme un pot-pourri des meilleurs moments, je présume. On va dire ça comme ça. Là, c'est moi qui rajoute là-dessus. Donc, un résumé des meilleurs moments radiophoniques et d'observation plus personnelle de l'homme à l'éternel chapeau de cow-boy avec MC Gilles. On peut imaginer que cette émission ne se prendra pas au sérieux, et ainsi de suite. Donc, là, on comprend que MC Gilles est passé de co-animateur d'émission du retour à... puis arrive McSween, fait qu'on est passé de MC à McSween. Donc, un autre MC qui va prendre plus la place de co-animation. Catherine Beauchamp resterait, c'est ce qu'on qui a été annoncé. Philippe Quentin à l'animation du retour. Puis MC, c'est retour au quotidien. Présence au quotidien, on comprend pas trop là, ça va être quoi, peut-être une chronique en tant que telle, moins que la co-animation, puis mission du vendredi. Le problème, c'est que MCG l'aurait appris lorsqu'il a lu justement la presse, puis c'est là qu'il ça l'a bien fâché, parce que lui est en négociation, puis on apprend, parce que quand MCG l'a appris qu'il quittait, certaines personnes se sont dit, OK, raison professionnelle, entente commune, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, conflit de travail, est-ce que c'est plus large que ça, puis là on a compris rapidement qu'il y avait un problème de personnalité sur un point, c'est encore une fois, on a la version d'MC, pas celle de Patrick Lagacé, mais ça fonctionnait plus entre Patrick Lagacé et MCG. Moi je dois dire qu'en onde, pourtant, moi je n'y ai vu que du feu. C'est pour ça que des fois, tu dis que ces gens-là sont des professionnels. Mais moi, ce qui m'a fait sourire après ça, parce qu'après ça, CMC a fait une entrevue avec Hugo Dumas dans la presse toujours. Je veux dire, on apprend tellement des choses. La presse, puis 98.5, je veux dire, des anciens de la presse s'en vont 98.5. Les exclusivités du 98.5, on les apprend dans la presse. Ça commence à marcher de plus en plus, ces gens-là, ensemble. Moi, c'est ça qui m'a fait sourire. Dans l'article d'Hugo Dumas, on écrit « Dans sa chronique publiée le 1er avril, mon collègue Mario Girard a dévoilé que cette émission du vendredi aurait réuni des moments radiophoniques du 98.5 sous forme de résumé humoristique. Le hic, MC Gilles affirme n'avoir jamais donné son accord ou même signé un quelconque papier pour l'animer. » Puis MC Gilles a dit dans d'autres entrevues que, je pense, Étienne Paré du Devoir, entre autres, j'ai appris ça dans le journal alors qu'on est encore en négociation. « J'étais très fâché qu'on fie MC Gilles. J'étais en vacances dans le Sud et j'ai lu dans le journal que le concept potentiel de ma propre émission, j'avais l'impression qu'il me rentrait ça de force dans la gorge, parce qu'effectivement, si c'est écrit, les gens vont penser que c'est ça. 98.5, c'est pas la première fois qu'on apprend des choses dans le journal, comme par exemple, ah, Isabelle Maréchal, Bernard Drinville, ça se peut qu'il lève les feutres. Non, 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 c'est pas vrai. Puis finalement, quelques temps plus tard, ben, Bernard s'en va politique, puis Isabelle Maréchal le perd son micro au 98.5. Moi, j'ai aimé le c'est faux réplique la direction. Une entente de principe et un contrat résumant les diverses implications de MCG au 98.5 étaient en cours de rédaction, indique la directrice générale des communications et de marketing chez Cogeco, Christine Dicker. Pas de difficulté à comprendre, à croire qu'il y avait une entente de principe et un contrat qui était en cours de rédaction, mais si c'était en cours de rédaction, ça doit être moi qui est peut-être pas bon en français, mais il me semble que quand on me dit en cours de rédaction, c'est que c'est pas fini d'être rédigé, et si c'est en cours de rédaction, c'est parce que les deux parties n'auraient pas encore signé. Moi, si je comprends, puis je comprends MC d'être fâché d'apprendre ça dans le journal, mais là, qu'il quitte l'émission présentement, c'est-à-dire le 10 avril dernier, c'est parce qu'on apprenait que Patrick Lagacé, là, ça fonctionnait plus. Puis lui, il s'en allait. Si, mettons, ton conflit est juste avec Pat. Si, mettons, il est en conflit avec Catherine Beauchamp, j'aurais pu comprendre. Là, c'est avec Patrick Lagacé. Il reste 2 mois. Après ça, il s'en va le matin. Je comprends peut-être qu'MC ne fera plus sa chronique le matin à l'émission de Paul Arcan si Pat reprend le contrôle de l'émission, ben c'est ce qui est censé arriver. Je comprends, c'est comme il reste 2 mois, vous avez toffé peut-être 1 an ou peut-être moins que ça en onde, alors qu'il devait avoir un conflit qui devait être important. Je trouve le timing un peu bizarre. Moi, ça continue de me faire dire que je suis content d'être à CISM parce que j'ai une liberté vraiment, vraiment importante. Et peut-être une si grande liberté en onde, même si, tu sais, je sais que ce que je dois dire doit être intelligible. parce que j'ai à cœur ce que vous vous entendez, puis je veux pas vous donner de la scrap à la radio, mais cette liberté-là, je me dis que je pourrais pas la retrouver nulle part ailleurs, puis les conditions de travail dans la radio, puis pas juste au privé, la Radio-Canada aussi, il y a des gens qui ont été sur des sièges éjectables très rapidement, quand c'est pas des questions de code d'écoute, des questions de conflit de personnalité avec soit la direction des co-animateurs, des co-animatrices, c'est une job qui ne semble pas être facile, puis surtout la manière dont des fois on se fait dire au revoir à la radio, ça semble complexe. Mais bon, je vais m'arrêter là et je vous laisse au bon soin de London Café. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.
On se fait carrément brainwasher, ça n'a pas de sens pour vrai.